un homme qui, comme souvent chez Yannick Hanel, s'appelle Jean Deschênes. C'est un chômeur de 43 ans qui décide de vivre dans sa voiture. Un moment de vide qu'il appelle intervalle, à la fois déchirure difficile et bouffée de joie. Et je cite Yannick Hanel, « Est-ce que ça étouffe? Est-ce que ça délivre? Les deux, c'est comme si vous tombiez dans un trou et que ce trou vous portait. » Daniel, je te laisse prendre la suite provisoirement.
D'accord. Ben bonsoir. Je suis très heureux d'être là, comme souvent. Et puis, je voulais vous dire à quel point c'est toujours un défi quand on a trois auteurs, trois livres, comme on vient de vous dire, des livres très différents, d'arriver à faire lien. C'est-à-dire, comment arriver à trouver devant trois livres, comment les lier. Et ça a été difficile, je trouve, cette fois-ci. Et ce qui m'est venu, c'est frontière. Ce qui m'a semblé faire lien, c'était la notion de frontière. C'était trois approches différentes des événements contemporains. Ça, c'est très important. C'est un reporter qui est habitué au théâtre des opérations, un autre reporter qui l'a aussi vécu sur le théâtre des opérations, mais qui écrit un roman, le premier écrit un récit, le deuxième écrit un roman, et puis, on va dire une pure fiction, ou pure fiction, mais quand même un roman à thème. Ce que j'ai ressenti en lisant ces trois livres, c'est que ces trois manières d'interroger l'impact de la réalité, et la réalité ici, c'est, par exemple, on est né quelque part. C'est-à-dire, là où on est né, cette réalité-là, elle va avoir un impact sur notre identité. Alors, c'est pas original de vous dire que le rapport à l'actualité, le rapport à l'information est quelque chose qui a beaucoup changé, et qui a beaucoup changé en très très peu de temps, en fait. On peut dire qu'aujourd'hui, et c'est pas une partie de plaisir, on est informé en temps réel. C'est comme ça qu'on nous dit. On est informé en temps réel de tout ce qui se passe dans le monde. Rien ne nous est épargné. La particularité de cette information, c'est qu'elle est médiatisée. C'est-à-dire, il y a un média qui nous parle. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps, les spectateurs de toute la violence, de toute l'injustice qui se passe dans le monde. Et nous sommes les spectateurs permanents, mais aussi impuissants. Et cette position, elle n'est pas du tout indifférente, parce que la plupart du temps, à notre insu, elle met en jeu des processus psychiques pour se défendre de ce à quoi nous sommes confrontés. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons tout le temps, ça provoque des choses en nous, il faut bien qu'on se débrouille avec ça. Et c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, dans ce temps réel, on passe d'instant de voir en instant de voir. Il n'y a jamais de temps pour comprendre, il n'y a jamais de temps pour réfléchir à ce qu'on nous montre, et on ne conclut jamais. On survole, vous savez, comme on dit aujourd'hui, on surfe sur l'information. Alors chacun va se débrouiller avec tous ces événements, chacun va se débrouiller avec ce rapport au monde auquel on est confronté. Et je trouve que, et les livres que j'ai lus le montrent bien, n'importe qui ne vient pas grand reporter, n'importe qui ne va pas sur les théâtres des opérations. Il faut un désir tout à fait singulier. Pascal Manoukian, il nous dit qu'il rêve d'expliquer le monde, que c'est ça qui l'anime. Pas celui qui réfléchit aux terrasses des cafés, pas celui qui murmure dans les couloirs des palais, mais celui qui suppure. Ça vous met tout de suite dans l'ambiance. C'est la plaie qui m'intéresse, c'est elle que je vais explorer. Mais il y a aussi une autre question qui hante son écriture, une question qui nous concerne, je pense, chacun d'entre nous. Pourquoi les victimes se laissent-elles toujours mener à l'abattoir ? Pourquoi est-ce qu'on a une telle passivité devant les événements qui nous écrasent? Et ça va au-delà de la question pure de l'abattoir, ça va aussi dans tout ce que nous vivons chacun au quotidien dans nos différents pays. Alors pour trouver une réponse à ces questions, le journaliste est celui qui traverse les frontières, souvent clandestinement. Et lui qui est sur le terrain, celui qui rencontre l'autre, d'une manière non médiatisée. Il va directement se confronter à la question de cet autre. Et là, se pose une question, c'est comment maintenir sa place face à l'autre. Il faut garder une bonne distance avec son sujet, rester, comme on dirait aujourd'hui, professionnel. La frontière, c'est ça la question, c'est la question centrale. C'est une frontière qui va se dresser tout d'un coup entre les personnages du roman de Jean Axwell. Il a suffi de passer un poste de contrôle et tout d'un coup on est séparés. Et du coup, nos destins changent, simplement parce qu'on a passé une ligne fictive. Ça m'a rappelé une confidence que m'avait fait il y a de nombreuses années maintenant le médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zagreb. Il m'avait raconté, cet homme, qu'il avait un service formidable. Il y avait un corps soignant extraordinaire. Il avait des chefs de clinique, des internes, des infirmières, une orthophoniste, un psychomotricien. Et tous ces gens-là étaient là et travaillaient ensemble depuis des années. Et tout le monde s'entendait. Un corps soignant qui fonctionne bien. Et du jour au lendemain, ça a explosé. Du jour au lendemain, il y avait des Croates, des Serbes, des musulmans, et c'était la haine. Il suffit d'un changement dans ce qui nous sert à nous repérer dans notre identité, et tout bascule. Et ça, je trouve que c'est des choses qui sont rendues par ces bouquins.
Bon, ben on va entrer dans leur livre maintenant. Alors, pour situer un peu chacun, quand même, Jean Axwell, vous découvrez la guerre à l'occasion d'un remplacement d'un collègue de Libération au Liban en 79, et depuis lors, on peut dire que vous avez été pris au piège et vous avez continué le grand reportage inlassablement, et en particulier celui de la guerre, comme Pascal Manoukian. Vous avez couvert le début du conflit en ex-Yougoslavie. Vous avez été grièvement blessé par un sniper à Sarajevo en 92. Dans un premier livre, L'ère de la guerre, vous racontez le quotidien de la guerre en Bosnie. Dans votre dernier livre qui vient de paraître, Robert Mitchum ne revient pas. Vous revenez à Sarajevo, vous en décrivez l'atmosphère sous les bombes. Et vous vous intéressez de près à ces redoutables snipers qui ont failli vous coûter la vie. J'espère qu'il nous donnera quelques explications sur le titre après. Sachez simplement que Robert Mitchum est un chien. Alors, avant d'y venir, je rappelle que vous étiez reporter au Rwanda au moment du génocide. Vous avez passé une dizaine d'années dans ce pays à sonder les âmes des Rwandais qui ont vécu des massacres tutsis. Du côté des victimes et du côté des bourreaux, vous avez écrit deux livres poignants là-dessus, et dans un troisième, vous racontez la vie après le génocide des protagonistes de vos deux premiers livres et de l'impossible dialogue entre rescapés et tueurs. Et vous décidez d'abandonner, à un moment donné, votre métier de journaliste. Plus ou moins. Il y a un moment donné où vous faites un pas de côté, et je voulais vous demander déjà, avant qu'on parle de votre livre, pourquoi est-ce que la plume de l'écrivain, peut-être c'est une question qui concerne Pascal Manoukian aussi, d'ailleurs, serait à mieux de rendre compte du paradoxe de l'humanité d'un homme. Oui, non, allez-y. On est là pour vous entendre, surtout.
Non, je veux bien attendre.
Oui. Je réponds alors
très brièvement. Je ne pense pas que ça, l'écriture soit plus adéquate pour. Voilà, je pense qu'il y a différentes écritures. L'écriture du journaliste est une écriture formidable, mais qui répond à des codes et des règles éthiques et déontologiques précises, et aussi à des nécessités précises. Le journaliste est là pour répondre à des questions qui ne sont pas les siennes, qui sont celles de ses auditeurs, de ses lecteurs, de ses spectateurs. C'est un intermédiaire et un goût de crime. il est là pour faire le lien entre les gens qui vivent à un événement, que ce soit un tournoi de tennis ou une guerre, et les gens qui lisent son journal. Et donc, il travaille au présent. Voilà, il travaille dans un temps qui est celui d'urgence et celui des questions, qui ne sont pas les siennes. Après, il y a d'autres écritures, celle de l'historien, celle du philosophe, celle du romancier, qui sont autres et qui répondent à des temps différents. C'est des temps différents. Le romancier est quelqu'un qui répond à ses propres questions. Il ne répond pas à des questions de ses lecteurs. Il ne se soucie absolument pas de ses lecteurs. Donc, c'est une écriture. Une même personne peut changer sa manière d'écrire, c'est mon cas, d'autres non. C'est tout à fait aussi admirable, tout à fait aussi le contraire d'admirable. Vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie dans ces écritures-là. Alors moi, contrairement à ce que vous dites, je n'ai jamais décidé de rompre. C'est un fait qu'à une exception près, mais je n'ai pas envie trop de m'attarder là-dessus parce que on n'est pas là pour ça, mais c'est effectivement au Rwanda. Au Rwanda, j'ai donc été confronté comme tout le monde, hein, ce n'est pas un cas personnel, mais comme tous les journalistes, à la limite précise de ce métier et de cette attitude, parce que c'est un métier, une attitude et une écriture, c'est-à-dire l'incapacité qu'on avait déjà connue entre 40 et 45, c'est pas quelque chose de nouveau, mais l'incapacité à affronter un événement. Voilà. On n'a pas les armes pour, on ne peut pas regarder quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, et donc on ne le regarde pas, on ne peut pas l'écrire. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, je m'étais dit, ça a été assez résonné parce que j'avais beaucoup regardé ce qui s'était passé en 45 quand même. Et donc c'était assez raisonné, et je m'étais dit qu'effectivement, un jour, je reviendrai dans ce pays d'une manière autre. C'est pas seulement une écriture autre, c'est une autre attitude, une autre manière d'être, d'autres règles, par exemple, quand on revient comme romancier ou comme celui qui fait un récit, etc., on peut laisser de côté un certain nombre de règles déontologiques qui sont de vérifier les faits, par exemple, ou d'aller à droite et à gauche pour équilibrer les points de vue, ou d'aller dans le sud et dans le nord, ou d'aller voir le président de la République, ou le militaire. On a besoin de tout ça, on se pose devant le marais et on essaye de regarder, enfin, on affronte les fantômes de ces marais. C'est une autre attitude. Voilà. Et après, ça c'est un petit peu, il y a une dérive qui s'est faite comme ça, et je conclue en disant que ça s'est fait comme ça, sans décision, et sans savoir ce que après demain présente.
Je pense que